Vous écoutez RTL.
Le grand jury, RTL Le Figaro LCI.
Invité aujourd'hui, Ségolène Royal, ambassadrice pour les pôles Arctique-Antarctique et ancienne ministre de l'Environnement.
Le débat est dirigé par Olivier Bost.
Bienvenue dans le grand jury. Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour vous interroger à mes côtés, Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Bonjour. Et Alexis Brézet. Bonjour. Du Figaro. Dans cette émission, il y a une séquence droit de suite avec vos réactions et vos questions. Marie-Pierre Haddad nous rejoindra tout à l'heure pour vous faire part des interrogations et des commentaires des auditeurs et des téléspectateurs. Des réactions que vous pouvez nous envoyer sur RTL.fr, Facebook et puis sur Twitter avec le mot-clé le grand jury. Depuis plusieurs semaines, Ségolène Royal, des hommes, des stars, des dirigeants, des politiques sont dénoncés pour harcèlement, pour agression sexuelle, pour viol. Des femmes brisent le silence. Sans personnalité lance ce matin un appel à Emmanuel Macron pour un plan d'urgence contre les violences sexuelles. Est-ce que vous pourriez signer cet appel ?
Bien sûr que je pourrais signer cet appel pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est temps que se lève la loi du silence sur ces crimes et sur ces délits que les femmes ont mis très longtemps à pouvoir révéler. Ensuite, pour avoir, pendant de longues années, contribué à lutter contre ces fléaux. D'abord, en tant que ministre de l'Éducation, dans l'Éducation nationale, sur toutes les atteintes sexuelles sur les enfants. Souvenez-vous de tous les combats contre la pédophilie et parfois des ricanements ou des agressions aussi dont j'ai été l'objet pour avoir pris à bras-le-corps ce sujet-là.
Et là, c'est d'une ampleur inédite, vous n'étiez pas arrivé
oui,
à ce résultat.
Oui, mais ça continue. C'est-à-dire que ces lois du silence dont j'ai pu mesurer la lourdeur, ça a été le cas aussi sur la loi contre le bizutage. Vous avez vu que dans une faculté de médecine, le bizutage a repris avec des atteintes sexuelles sur les jeunes filles. Que ce soit l'ensemble de toutes ces actions contre toutes ces formes d'agression sexuelle. Et donc la loi du silence est une très bonne chose. C'est une très bonne chose qu'elle ne s'atténue pas. Parce que la semaine dernière, on a entendu quelques voix dire « bon, bah, passons à autre chose, donc maintenant ça suffit, maintenant c'est de la délation publique, etc. » C'est-à-dire qu'à peine les femmes avaient-elles eu le temps de prendre la parole, de dire leur douleur, leur souffrance et d'en appeler à la justice, que déjà on sentait, au fond, une sorte de risque de reflux.
Alexis
et donc
Brézet.
Cet appel, il est bienvenu pour deux raisons. D'abord parce que ce sujet, en effet, doit être traité au plus haut niveau de l'État. Et j'observe aujourd'hui, tout le monde peut l'observer, qu'il y a une certaine inertie, c'est certes une loi a été annoncée au-delà des lois, ce sont des actions immédiates.
C'est ce que reprochent d'ailleurs les signataires dans le JDD,
oui,
que Mme Macron ne soit pas prononcée depuis quelques jours sur le sujet.
Elles ont raison, et les propositions qu'elles font très opérationnelles sont toutes excellentes. Et donc, bien évidemment, je signerai
cet appel.
Alexis Brézet.
Donc, elle propose des formations dans les entreprises au comportement adapté. Elle propose aussi un brevet de non-violence dans les écoles sur le modèle du brevet de la sécurité routière. Ça vous paraît faisable, ça ?
C'est très bien. C'est-à-dire qu'elle souligne une idée assez simple et de bon sens, qui est de dire que ce qu'on croyait parfois impossible a été réalisé. Divisé par 4 le nombre de tués sur la route. Alors, la comparaison vaut ce qu'elle vaut. Ça paraît, c'est impossible. Mais à partir du moment où ce sujet avait été pris à bras le corps par l'appareil d'État et relayé par tous les citoyens sur le territoire, à ce moment-là, ça a apporté ses fruits. Et aujourd'hui, il faut surtout empêcher le reflux sur ces sujets, c'est-à-dire que, par exemple, à la moindre erreur judiciaire ou s'il y a une dénonciation calomnieuse, hop, les choses vont se refermer. Et pardon de continuer la comparaison avec la pédophilie, parce que pour avoir vécu ça, vous vous souvenez ce film sur les risques du métier avec Jacques Brel ? Et bien, pendant 15 ans, les pédophiles, les avocats des pédophiles ont plaidé dans les prétoires. Non, c'est une erreur judiciaire. Ne refaisons pas ce qui a été fait pour Jacques Brel dans le film Les risques du métier. Et donc, il y a toujours cette dissymétrie.
Votre inquiétude, c'est que la société ne soit pas réellement en train de changer avec ces affaires qui...
Ma crainte, c'est que après l'émotion, les choses retombent. Et voyez, à l'heure où nous parlons, quel que soit le pays dont nous parlons, il n'y a encore eu aucune sanction, aucune incarcération, alors qu'il s'agit de crimes et de délits extrêmement graves.
Donc vous lancez un appel à Emmanuel Macron pour être plus offensif sur le sujet et prendre des mesures concrètes.
Enfin, je réagis à cet appel pour dire que c'est une excellente initiative, parce qu'il y a en effet un risque de reflux et parce que des décisions très rapides peuvent être faites. Par exemple, des affichages dans tous les lieux professionnels. Par exemple, le fait que la fonction publique doit être exemplaire. Et pour avoir eu à traiter un cas de harcèlement sexuel dans mon ministère, j'ai vu à quel point la loi du silence, la résistance de la hiérarchie, la résistance de la direction même de la fonction publique était là. Pourquoi ? Non pas que les gens veuillent cacher les choses, mais parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, de ligne directrice, d'injonction forte qui disent, voilà, vous êtes dépositaire d'un signalement, voilà comment vous devez procéder pour traiter ce signalement et pour être prioritairement du côté des victimes et pas du côté de la loi du silence qui profite aux agresseurs.
Vous dénonciez il y a un instant ceux qui, dans la semaine, ont commencé à mettre des réserves, des bémols, mais quand même, est-ce que le fait de pouvoir dénoncer sur les réseaux sociaux, qui sont une nouveauté par rapport à quelques années, son agresseur potentiel, avec les hashtags qu'on a vus, balance ton porc ou moi aussi, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque que ça aille trop loin et qu'effectivement la présomption d'innocence ne soit pas respectée ?
Je ne crois pas.
Vous êtes parfaitement à l'aise avec le hashtag « balance ton
absolument,
porc ».
Absolument, je suis parfaitement à l'aise avec ça. Et tous ceux qui commencent, et toutes celles, quand ce sont des femmes qui commencent à prendre leur distance par rapport à cela.
On a entendu Catherine Deneuve.
Non, c'est parfois justement dans le cri de désespoir et le cri de souffrance que les choses peuvent évoluer.
Est-ce qu'il n'y a pas risque que des gens soient livrés à la vindicte publique sans preuve ?
Mais il est où ? N'inversons pas la charge de la preuve, si j'ose dire. Le risque aujourd'hui, c'est même plus un risque, réalité d'aujourd'hui, c'est que seuls 5% des faits d'abus sexuels sont portés devant la justice, et parmi ces 5%, seuls 5% sont condamnés faute de preuves. Parce que la loi a été considérablement renforcée contre les victimes en 2012 et la charge de la preuve est extrêmement difficile. Et donc à ce moment-là, il faut d'abord un processus d'éducation, c'est-à-dire de zéro tolérance à l'égard du manque de respect dû aux femmes, dû à toutes les victimes d'ailleurs d'abus sexuels, et d'autre part des sanctions. Parce que c'est comme dans toutes les formes de délinquance ou de criminalité, ça recule à quel moment ? À quel moment où il y a la peur que ça se sache ? Donc ça, c'est la loi du silence. Et au moment où il y a la sanction qui est exemplaire. L'exemplarité de la sanction, le jour où il y aura le premier incarcéré pour abus sexuel et pour harcèlement sexuel, à ce moment-là, les autres auront peur. Et ceux qui ne sont pas conscients, finalement, de leur geste, de leur ça, parce qu'il y a une sorte de banalisation de la dégradation du corps des femmes, cela, on a une obligation d'éducation à leur égard et qui effectivement commence dès l'école.
Les témoignages qui s'accumulent contre Tariq Ramadan, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Écoutez, c'est difficile d'entrer dans chaque cas particulier. Là, j'espère que la justice sera saisie. Là aussi, la levée de la loi du silence, comme à l'égard de tout criminel sexuel, est une excellente chose.
Vous citiez un exemple tout à l'heure dans votre ministère. Est-ce qu'en politique, vous avez des exemples ? Est-ce que vous avez été témoin de choses qui n'ont pas été racontées à une époque ou à une autre ?
Non, je n'ai pas été témoin de crimes qui n'ont pas été racontés. Sinon, je me serais appliqué à moi-même l'article du Code de procédure pénale qui oblige à tout citoyen de signaler à la justice un crime dont il est témoin ou dont il a connaissance. Ça aussi, il faut que les citoyens le sachent. C'est pas de la délation, c'est une obligation citoyenne.
Alors, sans
très souvent,
on
a été confronté à ça. Ben non, je ne dis rien parce que c'est la délation. On a bien redit, y compris dans le système scolaire. Je m'en souviens parfaitement pour avoir fait cette circulaire. Ce n'est pas de la délation. Vous avez l'obligation de signalement de tout crime ou de tout délit qui est porté à votre connaissance. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est la base même de la levée de la loi du silence.
Encore une question sur ce sujet. Est-ce que, comme Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, vous considérez que, par exemple, un artiste qui aurait commis ces faits, qui aurait été jugé, je pense évidemment à Bertrand Cantat qui a fait la une des Inrecuptibles, est-ce que son œuvre elle-même, du coup, est pour l'éternité entachée de cette faute ?
Ça, c'est une question difficile que vous posez. Sur le cas que vous signalez, c'est un assassinat. Ça va quand même bien au-delà. Après, il y a une question de repères dans la société. Vous voyez, on est dans une société qui perd ses repères parce que tout est marchandisé. Le corps des femmes est marchandisé. La pornographie est partout, y compris dans les émissions de variété destinées aux enfants. Donc à partir de là, peut-être que justement, ce qui est en train de se passer doit conduire à remettre un certain nombre de repères et un certain nombre de règles. Et en particulier sur la protection de l'enfance, sur la protection de l'adolescence et sur la protection des femmes et des personnes vulnérables. Alexis, ou aussi des jeunes garçons, parce qu'il y a un autre tabou qui commence seulement à être levé et qui est encore plus difficile pour les victimes, ce sont les abus et les viols commis par des hommes sur des jeunes garçons et qui commencent seulement à être levés. Parce que là, c'est encore beaucoup plus difficile, parce que ça veut dire qu'il faut à la fois dire qu'on est victime et à la fois dire qu'on est homosexuel.
On l'a vu aux États-Unis.
On l'a vu aux États-Unis, mais il y en a là aussi.
La tribune rédigée par des femmes là, dont nous parlions est rédigée en écriture inclusive. Cette écriture qui permet de mettre les mots masculin ou féminin à la fois, en séparant par un point. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Est-ce que vous dites que c'est un moyen de lutter contre la domination masculine, ou bien c'est un truc ridicule, comme le dit l'Académie française?
J'ai vu que l'Académie française avait ridiculisé cela. Et ça m'a rappelé le temps où l'Académie française avait ridiculisé le moment où les femmes dont j'étais, d'ailleurs, avaient féminisé leur nom, leur titre ministériel. Donc j'étais la première femme à m'appeler la ministre. Et aujourd'hui, c'est imposé. Vous voyez comme quoi...
Mais est-ce qu'il faut dire policière, point ES, enseignante, ES?
En tout cas, quand pendant des générations et des générations, les filles ont entendu « le masculin l'emporte sur le féminin », il est vrai, et ça a été d'ailleurs démontré, que ça imprègne le cerveau. Le masculin l'emporte sur le féminin. Non,
donc vous êtes pour la généralisation, c'est contraire à la parité. Vous êtes pour la généralisation de l'écriture inclusive.
Juste en tout cas pour que le débat soit ouvert. Ce débat n'est absolument pas ridicule. Puisqu'à partir du moment où l'on dit le neutre, c'est le masculin, non, le neutre, c'est pas le masculin. Donc effectivement, la structure d'un langage, et tous les linguistes vous le diront, la structure d'un vocabulaire, la structure d'un langage peut aussi révéler les rapports de force dans une société. Cela dit, je ne suis pas du tout pour penser que homme et femme, c'est pareil. Je suis pour la parité, je ne suis pas pour l'espèce d'égalitarisme ou la substitution des fonctions. Au contraire, il y a une différence. Un homme n'est pas une femme, réciproquement. Et donc, la différenciation est fondée. La hiérarchisation est infondée.
Alors, le manifeste qui est devant vous, il n'est pas écrit avec l'écriture inclusive.
Si.
Pourquoi?
Non, le manifeste...
Sur le climat.
Vous n'avez pas tiré point ES, etc.
Non, mais il y a un chapitre spécifiquement réservé aux femmes. Parce que je pense que les femmes sont à l'avant-garde du combat climatique et le combat de ce siècle. Et donc, si on donne aux femmes le pouvoir d'exercer leurs responsabilités dans tous les domaines, alors je pense que le monde irait beaucoup mieux.
Depuis vendredi, 11h44, les femmes travaillent bénévolement. Oui. C'est le calcul d'une association féministe, puisque les femmes gagnent à travail égal 15% de moins. Ce chiffre s'améliore très, très lentement. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Non seulement ce chiffre ne s'améliore pas, mais il régresse. Et c'est ça qui est particulièrement grave dans le monde et peut-être en France aussi. En tout cas, il ne progresse pas en France. Oui, mais les discriminations se font plus insidieuses. Les principes sont là, il y a une égalité salariale, il y a un grand progrès lorsque les entreprises se sont vues imposer l'obligation de faire un plan d'égalité salariale homme-femme, mais il y a des discriminations insidieuses. Et j'entendais récemment une infirmière citer ces formes d'discrimination insidieuse, c'est-à-dire que la classification des métiers dits masculins est souvent supérieure à la classification des métiers dits féminins. Par exemple, un technicien hospitalier, un informaticien, par exemple, sera classé sur une hiérarchie des salaires supérieure à une infirmière qui est au contact de la vie, de la mort, qui est là la nuit, etc.
Sur ce sujet-là.
Comment ?
Il faut des lois plus difficiles, plus contraignantes sur ce sujet-là ?
Moi, je ne suis pas pour tout régler par les lois. Quand il faut des lois, il faut les faire. C'est évident que sur la question de la répression des abus sexuels, des crimes sexuels, il faut les faire. Mais il ne faut pas se contenter des lois. Vous savez, c'est souvent l'application opérationnelle sur le terrain, les obligations, la contractualisation, l'entraînement des gens pour les faire, les associer aux objectifs à atteindre, qui est aussi également très efficace. Donc là, par exemple, la révision des classifications des métiers par rapport à la domination masculine ou féminine, c'est quelque chose de très important, parce que c'est ça, parfois, qui fait la discrimination, indépendamment, bien évidemment, des discriminations qui sont totalement illégales, de différenciation, de rémunération, qui, malheureusement, reste une réalité.
Une autre actualité de cette semaine, la Catalogne, avec le président catalan destitué, qui est maintenant visé par un mandat européen d'arrêt, d'anciens ministres du gouvernement catalan qui sont en prison ou qui sont poursuivis. Est-ce que l'État espagnol va trop loin dans cette répression ?
En tout cas, chacun peut observer l'étrangeté qu'il y a à voir au cœur de l'Europe des gens, des personnalités politiques incarcérées pour avoir mené un combat idéologique.
C'est intéressant. Hier, j'étais dans la classe politique française à dire ça aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire. Oui. Eh bien, écoutez, j'ai entendu hier la réflexion d'une dame dans le train, vous voyez. Et je me disais, tiens, elle a quand même raison. Elle disait, mais quand même, ils sont jetés en prison. C'est vrai. Les prédateurs sexuels dont nous parlions à l'instant, il n'y en a pas encore un qui est en prison.
Donc vous êtes choqués par l'incarcération des anciens dirigeants catalans.
J'ai trouvé que cette réflexion était parfaitement fondée. Et en tout cas, la vraie question est de savoir qu'est-ce que c'est que cette Europe qui, en son sein, observe, assiste à l'incarcération de responsables politiques qui ont fait
tous les dirigeants européens, et Emmanuel Macron le premier soutient Madrid. Oui.
C'est autre chose, ça.
Ah bah, mais quand même, sans nuance, sans la nuance que vous-même parlez d'échelle européenne de développer.
Il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a le soutien aux institutions, à la légalité des institutions, à la constitution. Ouais. Et personne ne peut revendiquer ou soutenir une mauvaise adaptation ou application de la constitution, une violation de la constitution. Ça, c'est bien évidemment. Autre chose est de constater que dans l'indifférence générale, ou en tout cas dans la gêne, on assiste à l'incarcération de responsables politiques qui ont mené un combat idéologique, et ça au cœur de l'Europe.
Ça vous choque,
Il y a quelque chose qui n'est pas positif pour l'Europe.
Et ça vous choque ?
Je constate, si vous voulez, politiquement, qu'il y a là un dysfonctionnement de l'Europe. Et quel est ce dysfonctionnement de l'Europe, à mon avis ? Ouais. C'est que les institutions européennes, la Commission européenne, le président de la Commission européenne, voire le Parlement européen, voire le président du Parlement européen, bref, devrait servir de pôle de médiation.
C'est pas acceptable. Absolument, en disant être médiateur, c'est mettre les deux parties sur un plan d'égalité, pied d'égalité, ce qui n'est pas.
C'est absurde dans toutes les médiations. Alors sinon, il y a les guerres perpétuelles. Hein. Dans toute négociation après des guerres, à un moment, on les met autour de la table. Et c'est bien souvent ce qui traîne. Hein, quand il y a eu les deux grands conflits mondiaux, c'est parce que justement, il y avait cette espèce d'immaturité à se mettre autour de la table, à imposer aux gens qu'ils se parlent et à voir s'il y avait des solutions. Mmh. Quel est le problème ? Il est assez simple, le problème. Voilà une province la plus riche d'Espagne, qui a l'articulation d'ailleurs, c'est souvent le cas, parce qu'on voit la même chose dans le nord de l'Italie, la Flandre, etc. C'est pas le seul cas où l'on voit les grandes provinces des pays les plus riches qui sont à l'articulation, donc qui ont aussi des positions géostratégiques favorables, se dire pourquoi on tirerait l'ensemble du reste du pays et pourquoi finalement on devrait redistribuer le fruit de notre travail. Ce qui est d'ailleurs un raisonnement pas tout à fait juste, je le disais à l'instant, parce qu'il bénéficie aussi davantage peut-être que d'autres parties du pays n'ont pas. Mais c'est un vrai sujet, ça se discute, ça se regarde. En tout cas, ça met aussi devant leurs responsabilités les dirigeants de ces nations qui peut-être n'organisent pas suffisamment leur stratégie économique, leur stratégie sociale, leur stratégie environnementale pour faire en sorte que l'ensemble d'un pays soit aussi entraîné vers le développement économique et vers le rayonnement dont bénéficie seule une seule province, par exemple. Et donc, ça remet en cause le pouvoir central. Et le pouvoir central, au lieu de se remettre en cause et de se dire « ce problème est posé, qu'est-ce qu'il y a de juste dans ce problème, qu'est-ce qu'il y a d'injuste et comment on en sort ?» se dit, on verrouille, on envoie la police enfoncer les portes des mairies, parce que quand même, tout le monde a pu observer que pendant le vote, la saisie des urnes, les portes enfoncées, les personnes, y compris des personnes âgées, des femmes jetées par terre, sur tout ça, aujourd'hui, il n'y a pas de sanction. J'observe la différence de traitement par rapport au pouvoir espagnol. Mais la question, elle se fait entre gens respectables, qui porte certes une idéologie, mais ça se discute.
Sur le fond, la perspective d'une Catalogne indépendante, ça vous paraît quelque chose de possible, d'envisageable ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit. En plus, ça entraînerait d'autres revendications au niveau européen, donc ce serait effectivement assez dangereux pour l'unité du pays. Mais entre dire ce n'est pas acceptable et entre dire on met les gens en prison et on ne se remet pas en cause et on ne pose même pas la question de savoir pourquoi il y a ces volontés d'indépendance. Peut-être parce que ce sont les politiques nationales qui sont incompétentes, qui sont mal conduites. Et en mettre les gens en prison, ça permet de ne pas se remettre en cause.
Demander aux électeurs peut-être de trancher, comme l'a fait Raroy, en faisant des élections,
en tout cas,
c'est la bonne solution.
Il y a peut-être des solutions intermédiaires. Il y a peut-être un pas supplémentaire. Ça a été fait de d'autres façons, dans d'autres endroits. Donc peut-être que... Pourquoi il n'y a même pas une solution qui est recherchée? Ça, c'était le rôle des institutions européennes.
Le fait de faire des élections, c'est plutôt bien, ça?
Il faut poser les enjeux des élections.
Ouais.
Quelle est la question qui est posée? Est-ce que les gens répondent vraiment à la question? Là, pour l'instant, je n'ai pas vu quelle était la question posée et voir quels sont les enjeux par rapport... On ne règle pas un problème aussi complexe, à mon avis, hein, simplement par un oui ou par un non, ou par une campagne électorale.
Ils vont redésigner le Parlement catalan.
Oui, le Parlement catalan, oui. Ouais.
Donc, on va parler maintenant de vos nouvelles fonctions, Ségolène Royal. Vous êtes ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique. Vous revenez du Groenland, vous y étiez cette semaine. Qu'est-ce que c'est que cette fonction, ambassadrice des pôles?
Vous savez que c'est la continuité du travail qu'avait fait Michel Rocard. Et la plupart des pays, d'ailleurs, de la planète, ont un ambassadeur ou une ambassadrice pour les pôles. C'est un enjeu absolument considérable. Pourquoi? Parce que la présence de la France dans ces parties du globe, et c'est ça mon principal objectif, c'est réinstaller l'influence et la présence de la France à la fois en Arctique et en Antarctique, ce qui n'est pas d'ailleurs à mettre sur le même plan, puisque en Antarctique, nous sommes présents par les terres australes françaises, c'est un continent, il y a déjà un accord de protection de l'environnement de l'Antarctique. Sur l'Arctique, tout est à construire. Tout est à construire et c'est un champ de observation et d'enseignement scientifique absolument considérable par rapport au sujet climatique, parce que si le réchauffement planétaire est aujourd'hui de 3 degrés, hélas, au niveau planétaire, vous savez qu'il faut le ramener en dessous des 2 degrés, au pôle, il est de 7 degrés. C'est-à-dire que les catastrophes climatiques viennent aussi de ce réchauffement accéléré du pôle, notamment de l'Arctique, puisque avec la fonte des glaces, c'est l'augmentation notamment du niveau de la mer. Et cette fonte des glaces, ça c'est le versant positif, déclenche des opportunités économiques considérables. Donc l'enjeu, c'est que ces développements économiques considérables, l'accès aux énergies fossiles, l'accès...
C'est pas très positif, l'accès à de nouvelles énergies fossiles.
Non, justement, il y a un danger absolument considérable, parce que si un jour il y a une marée noire en Arctique, cette marée noire sera catastrophique. Vous vous souvenez d'ailleurs que le Canada en avait connu, l'Alaska en avait connu une. Et donc, ce que la France peut faire, par rapport à la crédibilité qui est la nôtre, notamment par rapport au fait d'avoir réussi la conférence de Paris sur le climat, c'est de pousser les États arctiques, dont nous ne sommes pas, donc c'est une difficulté supplémentaire, ou plutôt peut-être une opportunité supplémentaire, parce que nous ne sommes pas partis aux intérêts économiques immédiats du cercle arctique, mais nous sommes pays observateurs. Pourquoi sommes-nous pays observateurs? Ça surprend beaucoup. C'est parce que nous avons une tradition de recherche scientifique absolument extraordinaire. Nous avons 400 chercheurs spécialisés dans les pôles, dans tous les champs du développement scientifique. Et puis les grands chercheurs que nous connaissons, que ce soit Paul-Émile Victor, donc j'ai vu la cabane de Paul-Émile Victor qui est toujours là au Groenland, que ce soit Jean Mallory, Charcot, aujourd'hui Jean-Louis Etienne. Donc il y a des grands explorateurs français qui ont permis l'accès à des connaissances tout à fait exceptionnelles. C'est pour ça que nous bénéficions d'un grand respect dans cette zone du globe et donc d'une capacité d'influence et puis aussi des intérêts nationaux parce qu'il y a des enjeux pour les entreprises du monde entier et donc c'est très important que l'économie, les entreprises françaises soient aussi présentes. J'ai vu les entreprises russes, j'ai vu les entreprises asiatiques, j'ai vu les entreprises italiennes, j'ai vu les entreprises allemandes, mais je n'ai pas vu les entreprises françaises au Groenland et donc il faut que cette présence soit effectivement...
Avant de parler de fond, est-ce que vous avez, est-ce que ceux qui ont dit que c'était un lot de consolation pour ne pas avoir été renommé ministre ont eu tort de dire ça?
J'ai toujours entendu ça dans ma vie politique. Vous savez, un jour, on m'a nommé ministre de la famille et des personnes handicapées parce qu'on m'a dit, bon, bah, t'as 4 enfants, tu vas être ministre de la famille. Ah, puis tiens, on a oublié de nommer quelqu'un handicapé. Bon, bah, tu vas prendre les handicapés. C'est textuellement comme ça que le remaniement...
On vous l'a présenté?
On m'a présenté le remaniement, je dis, mais... Ce sont des sujets absolument majeurs, des sujets très importants. Vous voyez, pour reprendre un sujet d'actualité, j'ai créé le congé de paternité, par exemple, ou l'intégration des enfants handicapés à l'école. Tout sujet est absolument majeur. Et d'ailleurs, je rencontrais Jean Mallory, notre grand chercheur qui a écrit ce magnifique livre là sur les derniers rois de Thulé, qui est un des premiers explorateurs au Groenland, et qui m'a dit ça. Il m'a dit mais c'est vrai que c'est un sujet absolument majeur, parce que pourquoi les pôles, c'est finalement l'origine de la planète, d'une certaine façon.
Et donc Jean-Yves Le Drian, quand il dit que vous êtes chargé désormais du froid pour les pôles et du chaud, puisque vous êtes aussi président de l'Alliance solaire, il a eu tort de présenter votre mission comme ça.
Disons que, comme d'habitude, je prends les choses du bon côté. Pour la condescendance, il ne faut jamais s'arrêter à cela, mais au contraire, se retrousser les manches et se mettre à la tâche.
Alors Marie-Pierre Haddad de la rédaction d'RTL nous a rejoint pour relayer les questions et les remarques des auditeurs et des téléspectateurs. Marie-Pierre, quelle est la tonalité sur les réseaux sociaux, en particulier sur l'appel des 100 personnalités? Ça fait réagir.
Oui, beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, Ségolène Royal. Alors, donc, vous en avez parlé en début d'émission. Par rapport à cet appel des 100 féministes, personnalités féminines qui réclament un plan d'urgence à Emmanuel Macron, on a en direct la militante féministe Caroline Dehaas qui a immédiatement réagi par rapport à vos propos. Et sur Twitter, elle vous appelle à signer cette pétition. On a aussi un commentaire sur RTL.fr de Didier qui dénonce le fait que beaucoup de choses sont cachées et ça ne s'arrange pas. C'est ce qu'il écrit. Et sur Twitter encore, Béatrice affirme que justice ne se fait pas. Donc pour répondre à ce plan d'urgence, comme ça s'appelle, quelle est la première mesure, d'après vous, qu'il faudrait mettre en place?
D'abord, est-ce que vous signez?
Oui, bien sûr, je vais signer. Dès la fin de cette émission, je vais signer. Et la première chose, je pense, d'abord, c'est peut-être une campagne télévisée pour rappeler ce que c'est que la règle de droit, du respect des autres, ce que c'est que les condamnations qui sont encourues. Comme je le disais tout à l'heure, il y a deux champs d'action. Il y a la levée de la loi du silence, il y a que le camp de la peur change. C'est-à-dire que ce ne soit plus les victimes qui aient peur ou qui aient honte, qu'il y ait dans tous les lieux de cohabitation, de travail, etc., des instructions extrêmement claires, affichées, et des personnes référentes pour savoir à qui s'adresser, soit quand on est victime d'une agression sexuelle, soit quand on est dépositaire d'une confidence d'agression sexuelle, et ensuite que les instructions très claires soient données au commissariat de police et surtout à la justice, et que les plaintes puissent déboucher sur des condamnations. Et à ce moment-là, ça s'arrêtera. Je pense aussi qu'il faut une formation à l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pardon de parler de ce que j'avais fait, mais ça, c'est vraiment des combats pour moi qui sont de longue haleine. Quand je suis arrivée à la tête du ministère de l'Enseignement scolaire, j'avais fait distribuer, ça avait été un travail difficile, parce qu'il ne faut pas se tromper, ni en faire trop, ni en faire trop peu. C'est très difficile, ces sujets, et on avait regardé quels étaient tous les outils pédagogiques à l'échelle de la planète, qui avaient été les plus efficaces, les plus respectueux, etc. Et on avait trouvé que c'était au Canada, donc j'étais allée au Canada avec les spécialistes de la pédagogie, les enseignants, et on avait rapporté ce petit livre qui s'appelait « Mon corps, c'est mon corps, j'ai le droit de dire non ». C'était pas tous les adultes qui me font un bisou sont des obsédés. C'était pas ça, parce qu'il y a souvent ce reproche pour dire on ne fait rien parce que sinon on va avoir des dénonciations tous azimuts. Non, on fait quand même quelque chose. Il y avait ce petit livre, Mon corps c'est mon corps, j'ai le droit de dire non. Malheureusement en France, quand les ministres changent, même les bonnes choses sont remises en cause. Donc il faut prendre les bonnes choses et faire du travail de longue haleine. Et par exemple, pourquoi ne, en attendant de refaire peut-être quelque chose d'autre, pourquoi ne pas reprendre ce petit doc et le distribuer dans toutes les écoles et dans toutes les classes? Et ça recommence à l'éducation.
Dans la deuxième partie du Grand Jury, continuez à réagir sur RTL.fr, sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Le Grand Jury. On se retrouve dans un instant.
Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI.
Invité aujourd'hui, Ségolène Royal, ambassadrice pour les pôles Arctique-Antarctique et ancienne ministre de l'Environnement.
Le débat est dirigé par Olivier Bost.
Avec toujours à mes côtés Christophe Jacubizine pour TF1 LCI et Alexis Brézé pour Le Figaro. Nous allons parler maintenant, Ségolène Royal, de Nicolas Hulot, votre successeur. La COP23 s'ouvre demain en Allemagne. Est-ce que c'est l'un des défis pour Nicolas Hulot? Vous attendez des résultats concrets?
C'est un défi pour la planète, bien d'abord et avant tout. C'est un défi pour la France, également. Nous sommes là juste à l'anniversaire de la première année de l'entrée en application de l'accord de Paris. C'était le 4 novembre dernier. Il y avait 55 pays. Et aujourd'hui, il y a plus de 160 pays qui ont ratifié l'accord de Paris. Donc, on a envie de dire que pour la première fois, l'humanité a été au rendez-vous de son histoire.
On est à plus de 3 degrés de réchauffement climatique.
Mais
on a le sentiment que par rapport à il y a 2 ans, au moment des accords de Paris, où il y avait cette espèce d'élan, là, les États-Unis avec Trump sont sortis de l'affaire. Oui. Enfin, sont en passe de sortir de l'affaire. Mmh. L'ONU dit, mais les résultats sont pas au rendez-vous. Mmh. Ce qu'on avait promis, on l'a pas fait. Et puis, il faudra en faire davantage, mais on le fera encore moins si on n'a pas fait ce qu'on devait faire.
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire, il y a toujours un risque de ralentissement. Mais paradoxalement, je pense que la sortie de Trump de l'accord de Paris a relancé une mobilisation de ceux qui sont convaincus. La mobilisation d'autres pays, la mobilisation des grandes villes, je ne crois pas, il ne peut plus. Hein, puisque la ratification, comme je l'expliquais à l'instant, l'accord de Paris est entré en application. Donc, même s'il veut sortir, il y a un délai de 2 ans de sortie. Mais la France a un leader à assumer, et je dois dire que Emmanuel Macron a repris magistralement le leadership sur le climat. D'abord parce qu'il a trouvé une excellente formule, Make our planet great again. Ensuite parce qu'il a réaffirmé la place de la France, et chaque fois, j'ai pu le constater d'ailleurs à New York, lorsqu'il a ses interlocuteurs en face de lui, il remet la question climatique sur le devant, et ça c'est absolument crucial. Ensuite, parce qu'il a pris 2 initiatives, l'une qui sera le sommet sur l'Alliance solaire internationale qui aura lieu le 9 décembre à New Delhi, avec des annonces opérationnelles et concrètes, et en particulier sur l'accès des populations les plus démunies dans les continents les plus démunis à l'électricité solaire. Et deuxièmement, l'événement qui aura lieu le 12 décembre à Paris pour marquer les 2 ans de l'accord de Paris.
Donc satisfaite pour l'action d'Emmanuel Macron. Pour son ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, est-ce que vous continuez de le conseiller, par exemple, par SMS, comme vous le...
Oui, tout ce que je peux, d'abord là, ne serait-ce que ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'épaule, ma responsabilité pour préparer le sommet de l'Alliance solaire, bien évidemment, j'aide de toutes mes forces tout le combat climatique à continuer, bien sûr.
Et dans le monde, dimanche dernier...
Je crois que
dernier,
ça dépasse d'ailleurs, c'est un enjeu national et c'est un enjeu mondial. Et donc, ce n'est pas la responsabilité d'un seul ministre parmi nous. Il y a tous les secteurs qui sont concernés. Dimanche, il y a l'agriculture avec la reforestation.
Si on vous pose la question sur Nicolas Hulot, c'est parce que dimanche dernier, par exemple, dans le monde, il a dit qu'il verrait dans 1 an s'il est encore utile. Est-ce que cette stratégie, une forme de menace à la démission, est une bonne stratégie?
Ça, ça relève de sa... de sa responsabilité.
Vous lui remontez le courage par
j'espère
parfois,
en tout cas qu'il va être utile. Vous savez, on est ministre pour servir. On est ministre pour être utile chaque jour, même pas dans un an. Chaque jour, on doit être utile à son pays quand on a l'honneur et qu'on est au service de la France. Chaque jour.
On a l'impression que lui, parfois, en doute.
On n'a même pas le choix. On doit être.
Comment vous considérez les premiers mois de son action? Vous dites qu'il a été utile ou finalement il est là pour faire joli dans le décor, mais en matière d'environnement, il n'a pas fait grand-chose?
Vous savez, moi, je ne vais pas réduire la question climatique ou la question environnementale à une seule personne.
Non, mais vous aviez tiré une sonnette d'alarme parlant du logement, disant il y a quand même des choses...
J'ai dit que c'était un excellent ministre, mais j'ai dit qu'il y a effectivement des points de vigilance, parce que ce sont des combats.
Sur quel point précis aujourd'hui vous êtes inquiète?
L'enfouissement des déchéts nucléaires, un seul endroit, par exemple
On ne peut pas faire la liste de tous les sujets environnementaux sur lesquels il faut mettre son poids, sa force, entraîner les convictions. Etc.
Et notamment des dossiers sur lesquels vous avez pu travailler. Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui?
Points de vigilance. Il y a des grandes avancées, on vient de le dire, sur le leadership climatique qu'il fait du président de la République. Il y a la loi sur l'arrêt de l'exploitation des énergies fossiles en 2040. Il y a des points de vigilance. Qu'est-ce que c'est les points de vigilance? C'est ne pas changer sans arrêt les règles, maintenir ce qui a été bien. D'ailleurs, c'était un peu l'enjeu.
C'est ce qui remet en cause
ce qui avait été dit, maintenir ce qui est utile et même renforcer en allant dans la bonne direction ce qui est utile. Donc, il faut être vigilant sur tout ce qui concerne les questions budgétaires.
C'est ça, toute histoire de crédit d'impôt pour l'environnement.
On ne peut pas augmenter.
Mais ça, on les a baissés.
Oui, mais ça, c'est pas, ça a été reporté. Mm-hmm. J'ai vu quand même, vous voyez qu'il y a quand même du champ de discussion, puis les parlementaires aussi qui sont en contact du terrain. Les parlementaires sont vigilants.
Vous avez dit que c'était à voir par Bercy, Nicolas Hulot, sur...
C'est les vrais combats. Moi aussi, tous les mois, Bercy revenait à la charge pour dire on va casser le crédit d'impôt, on va casser les territoires énergie positive. Et là, je vois...
Les crédits pour les collectivités locales aussi, elles se plaignent beaucoup qu'on leur enlève.
Circulaire, signé de Nicolas Hulot, je lui ai dit d'ailleurs que ce n'était pas une bonne décision, qui met fin au crédit de paiement des territoires à énergie positive. Mais il faut du temps pour travailler. Vous savez, les petites communes, j'ai voulu que même les petites communes rurales, les petites communautés de communes rurales, pas seulement les grandes villes, aient aussi le droit de faire des travaux d'économie d'énergie dans leurs écoles, dans leurs mairies, de mettre des voitures électriques, de replanter, etc., de faire de la biodiversité, de mettre des énergies renouvelables, de construire des panneaux solaires, des éoliennes, à la filière bois. C'est tout ça qui crée de l'emploi sur les artisans, les petites entreprises locales, qui entraînent des territoires, qui fait qu'on se sente, même quand on est dans une petite commune rurale, partie prenante d'un grand défi mondial. Le local, le national et l'international.
Parmi les points de vigilance.
Et tout se tient parce qu'il faut les liens. Donc quand ça recule sur la fiscalité verte et qu'on reprend aux gens des baisses d'impôts qui étaient données parce qu'ils font des travaux d'économie d'énergie, je dis non, ça ne va pas dans la bonne direction, et surtout que, pour préparer le sommet du 12 décembre.
Parmi les points de vigilance
quand on remet
que vous évoquez...
en cause les territoires énergie positive, les 560 territoires qui ont mis du temps à s'organiser, qui ont mis du temps à décider.
Ça, c'est Nicolas Hulot qui les remet en cause.
J'espère que le Parlement va rétablir ces crédits de paiement. Pourquoi ? Parce que les parlementaires, ils vont voir les maires, qui vont venir les voir en disant attendez, on a commencé les travaux pour isoler notre école, pour avoir moins de dépenses d'énergie, puis en plus, on a mis un panneau solaire. Si vous nous retirez le tapis sous les pieds, on ne va pas pouvoir payer l'artisan du coin. Et ça ne va pas être compréhensible. Or, si l'on veut rester passé en dessous des 3 degrés, je le répète, il faut des actions locales. Je rappelle que 70% des actions d'efficacité de lutte contre le réchauffement climatique se passent à des niveaux infranationaux. Ensuite, il faut des règles contraignantes pour empêcher les pollutions, les gaspillages d'énergie. Il faut mobiliser les entreprises en mettant un prix du carbone à l'intérieur des entreprises et en orientant la finance verte. Il faut des actions nationales avec des règles et il faut l'action internationale.
Donc on a
la totalité du dispositif.
Vous dites à Nicolas Hulot, ministre, c'est un métier.
Non, mais je ne veux pas rentrer dans...
D'ailleurs, il
faut
faire de la politique. Vous avez dit qu'il avait été trop dur avec vous parce qu'il
ne
se rendait pas compte à quel point...
Il ne se rendait pas compte de ce que c'était.
Ça s'est par SMS que vous l'avez dit.
Mais c'est bien parce que, d'une certaine façon, ça réhabilite l'action politique. Vous voyez, quand des personnalités venues de la société civile...
Ils se rendent compte que c'est dur, vous voulez dire.
Eh ouais. Ils se rendent compte que ce n'est pas que de la parlotte.
Sur le glyphosate, vous êtes vigilante.
C'est des combats tous les jours, c'est beaucoup de travail, ce n'est pas de week-end, ce n'est pas de vacances. Et que c'est des enjeux considérables, surtout dans ce
ministère. Sur le glyphosate, vous nous parliez des points de vigilance.
Glyphosate, point de vigilance. Pourquoi point de vigilance ?
On a l'impression que les ministres ne sont pas d'accord entre eux, là, pour le coup.
Oui, ils n'ont jamais été. Ouais. Sauf que comme c'est moi qui siégeais, j'ai voté contre. Vous voyez, les ministres avaient beau protester, c'est l'avenir de la planète. C'est un contresens historique que la France aille voter pour le glyphosate, même pour 3 ans.
À l'époque,
c'est pas le sujet
Paul,
de voter pour 3 ans. Le sujet, c'est est-ce que la France...
Est-ce que c'est réaliste de l'interdire dès demain ?
Attends, il y a deux choses. Est-ce que la France affiche un changement de cap en passant d'un vote contre l'autorisation du glyphosate à un vote pour, oui, mais comme c'est pas pour longtemps, on peut quand même le donner.
Si elle vote contre, tous les agriculteurs doivent changer.
On ne fait pas ça, parce qu'on est la France. Donc on ne fait pas ça.
Mais c'est irréaliste.
Il n'y a pas de compromis dans les questions.
Ça veut dire que tous les agriculteurs doivent changer leur pratique du jour au lendemain, c'est impossible.
Les agriculteurs, ils ont eu 10 ans. Parce que vous voyez l'arnaque dans ce sujet.
La consommation de glyphosate a augmenté.
Les chimistes qui ont mis le glyphosate sur le marché, il y a 10 ans que la Commission européenne leur a donné une autorisation pour 10 ans. Donc, ils savaient parfaitement que ça allait s'arrêter. Si à un moment, vous n'êtes pas extrêmement ferme sur le maintien des échéances, c'est toujours les pollueurs qui vont avoir gain de cause parce qu'ils vont se dire ce que vous dites. Mais on dira que ce n'est pas possible, on dira qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain, on dira qu'on va casser l'économie, etc. Et on aura une nouvelle autorisation. Et
donc on ne changera rien.
Si l'on veut inventer le monde de demain...
La France,
mais non, il faut
à
pas
Bruxelles,
que...
vote une autorisation temporaire.
Non, la France doit voter contre.
Mais on va vers 2-3 ans quand même, a priori,
je pense que c'est une mauvaise décision.
Et sur ce sujet-là, comme
et quand j'entends Jean-Claude Juncker et la Commission européenne dire « Non, mais les pays ne prennent pas leurs responsabilités, prenez vos responsabilités. » Parce que la Commission peut décider toute seule, il faut le savoir, sans l'accord des pays.
Parce que les pays ne veulent pas, majoritairement, ils ne veulent pas l'interdire.
On ne sait pas.
Oh, bah, quand on regarde les positions des uns des autres...
Si la France bascule, et Monsanto a été racheté par Bayer, qui est une entreprises allemandes, quoique Angela Merkel a besoin des écologistes pour gouverner, donc elle va quand même y regarder à deux fois, mais vous voyez que, à quoi ça tient. On ne sait pas. Parce que si la France bascule, d'autres pays peuvent dire « Ah ben, la France a basculé, donc on peut basculer aussi. » La France,
non, il faut tenir bon, là.
C'est la France. Mmh. Et ce que fait la France est regardé, et ce que fait la France peut faire basculer dans l'autorisation. Et quand la Commission européenne dit « Les pays doivent prendre leurs responsabilités, je ne veux pas décider seul. » Mais si. Si la Commission européenne pense qu'il faut continuer à utiliser le glyphosate, elle prend son risque. Pourquoi c'est elle qui doit prendre son risque, la Commission européenne, et pas les pays aider la Commission européenne à prendre son risque? Parce que c'est la Commission européenne qui a été défaillante sur le contrôle du glyphosate. Elle aurait dû dire, il y a 3 ou 4 ans avant l'échéance qui arrive au mois de décembre,
attention, on y arrive,
dites-nous ce que vous avez fait. Non seulement elle ne l'a pas fait, mais elle a laissé ses commissions techniques être infiltrées par les lobbies industriels. Donc elle est doublement fautive, la Commission européenne.
Vous attendez une position très ferme de la France. Tout à l'heure, vous êtes dite satisfaite d'Emmanuel Macron sur le dossier de la COP23. Est-ce que d'une manière générale, sur l'écologie, Emmanuel Macron a fait sa mue ou pas?
Oui, je pense qu'il a fait sa mue. Pas d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup à travailler avec lui lorsque j'étais ministre de l'Environnement et lui ministre de l'Industrie. Et donc nous travaillons ensemble sur un certain nombre de sujets.
Par exemple, sur un dossier comme Notre-Dame-des-Landes.
C'est pas sa sensibilité première.
Par exemple, sur un dossier comme Notre-Dame-des-Landes, vous attendez une décision.
On passe vite à un sujet.
Ah bah oui, mais il y en a beaucoup de sujets.
Sur Notre-Dame-des-Landes, ça, ma conviction est faite depuis longtemps.
Qu'il faut renoncer.
Donc il faut renoncer.
Je ne parle jamais en termes de renoncement. Mais non, il faut continuer à équiper le pays. Mais non. Le problème, ce n'est pas de renoncer ou de ne pas renoncer. Moi, je ne suis pas dans l'idéologie. Le problème, c'est de savoir quel est le meilleur équilibre pour l'aéroport actuel. C'est tellement évident.
Alors, on va parler d'autres sujets.
Un autre sujet d'environnement.
Si les gens avaient été moins bloqués là, sur notre nouvel aéroport, avec des chantages ou contentieux, comme d'habitude, contentieux d'ailleurs qui n'existent pas, parce qu'il y a souvent ça, il y a un risque de contentieux, donc on prend la mauvaise décision. Non, attendons le contentieux, et puis plaidons justement pour gagner ce contentieux. Ce
qui est souvent arrivé d'ailleurs. Pour
terminer là-dessus, si la médiation avait eu lieu plus tôt, et si on avait forcé les gens à s'entendre et à faire des rapports éclairés, l'aménagement de l'aéroport ancien serait déjà fait. C'est tout.
Sur d'autres sujets concernant les décisions d'Emmanuel Macron, je pense aux aides au logement, à la réduction des emplois aidés, à la suppression de l'ISF. Est-ce que vous dites, comme votre ancien collègue Bernard Cazeneuve, que c'est une politique de droite ?
Non, je ne dirais pas que c'est une politique de droite.
Mais vous avez quand même émis des réserves là-dessus, sur tout ça.
Oui, j'ai mis des réserves, mais constructives. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il faut toujours regarder les initiatives politiques qui sont prises et regarder comment elles peuvent marcher. Mon souhait le plus profond, moi, c'est que ça marche bien, que l'emploi se développe, que la mutation énergétique se fasse, etc. Donc, ça ne me choque pas a priori qu'on puisse prendre des mesures qui sont idéologiquement classées à droite.
Mais il faut équilibrer. C'est une question d'équilibre, alors, oui.
Non, c'est une question de, comment dirais-je, de compensation. Vous voyez, l'idée de dire on va alléger la fiscalité sur le capital, pourquoi pas? On va alléger la fiscalité sur le revenu du capital.
À ce moment-là, il ne faut pas augmenter la CSG.
Pourquoi pas? Mais voilà, il y a deux choses. C'est quels sont les autres signaux que l'on donne en même temps pour que
Parce que vous nous décrivez,
comprennent.
C'est une question d'équilibre.
Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a comme compensation? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande? Je crois qu'on est dans une société où chaque euro dépensé doit être un euro utile et chaque euro allégé doit être un euro compensé. Comment est-ce qu'on fait du gagnant-gagnant, autrement dit? C'est-à-dire, avec cet allègement fiscal, qu'est-ce qu'on leur demande en contrepartie? Et c'est là où c'est un peu faible. C'est là où ça peut s'améliorer. C'est-à-dire, quelle contrepartie on met? Et moi, j'avais fait une proposition qui est de dire faisons les allègements sur le capital, uniquement sur le capital investi dans la croissance verte. Beaucoup de secteurs qui sont concernés.
Ça n'a pas du tout été retenu, ça, cette idée-là.
Ça n'a pas été retenu, mais les idées.
Une
idée dont l'heure est venue ne peut pas reculer. Vous allez voir, un jour, ça va venir.
Est-ce que c'est une question d'équilibre politique au sein du gouvernement? Est-ce que finalement, vous avez dit, il y a beaucoup de gens qui apportent leur regard de la société civile, mais est-ce qu'en même temps, il ne faudrait pas effectivement des poids lourds politiques capables d'être garants de ces équilibres?
Je ne sais pas, c'est une question de personne. Je pense que c'est plutôt une question de contact. si vous voulez.
De contact.
Si vous voulez, quand vous mettez beaucoup de ministres techniciens, à ce moment-là, il faut peut-être renforcer les pouvoirs d'un Parlement qui est au contact du territoire. Il n'y a rien de plus vrai en démocratie que le contact
avec faire de la politique,
les gens.
C'est pas la direction qui est franchement prise par En Marche,
avec les gens,
et par
avec les
le
entreprises
du
de terrain, avec ceux qui, tous les jours, ont des décisions à prendre. Et c'est ça, parce que c'est évident, ça crevait les yeux que de faire en même temps l'allègement sur le capital et en même temps la CSG sur les petits retraités. Quelqu'un, s'il y avait plus de ministres peut-être au contact du terrain, et si peut-être le Parlement en amont, les parlementaires en amont avaient été consultés, peut-être que quelqu'un aurait dit « Attendez, il y a un problème de lisibilité de la politique qui est conduite. » Alors ça peut venir. Moi, je ne suis pas pour condamner comme ça a priori, mais je pense que la politique, c'est aussi dans des sociétés complexes, une capacité de réajustement permanent. C'est-à-dire garder ce qui est bon dans une
Donc
mesure,
y a une forme de
ce qui n'a pas été compris.
Avec il peut y avoir du nouveau pouvoir avec le,
terrain. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. J'ai dit la politique, c'est compliqué. Donc, il faut reconstruire en avançant. Il ne faut pas se braquer ni du côté de ceux qui ont pris les décisions en disant « on a pris ça ». Et donc, combien de fois j'ai vu ça ? Combien de fois j'ai vu des responsables politiques dire « on a fait ça, mais surtout, on ne recule pas ». Parce que si on recule, ça veut dire qu'on va s'affaiblir et que la décision suivante, on nous dira bah, « vous prenez cette décision, mais vous allez voir, vous allez reculer ». Donc la question de la reculade en politique doit être retravaillée, parce que souvent, il faut expliquer que ce n'est pas une reculade, mais que c'est un réajustement par rapport à la réaction du corps social ou par rapport à des impacts négatifs secondaires qu'on n'avait pas forcément imaginés lors de la prise de décision.
Vous venez nous dire que, sous réserve des contreparties, des équilibres, vous n'êtes pas choqué par certaines mesures comme la suppression de l'ISF, ça veut dire que vous auriez pu être dans un gouvernement comme ça avec d'anciens ministres républicains qui, à Bercy, etc., vous auriez été à l'aise justement avec cette manière de faire la politique aujourd'hui.
Je suis pas au gouvernement, je ne demande pas à l'être. Hein. Donc là, je suis une femme politique expérimentée qui peut lancer un regard sur ce qui se passe avec une parole totalement libre. Et donc, par rapport à cette expérience que j'ai à la fois du local, du national, de l'international, avoir vu des réformes échouer, des bonnes réformes échouer, d'autres mauvaises réformes se fracasser.
Comme la taxe carbone.
Oui, mais la taxe carbone, on l'a quand même faite avec l'augmentation de la TVA.
Donc pas comme on pensait la faire au départ.
Oui, mais quand même, on s'est rentré quand même dans les caisses. Donc, justement, pas comme c'était au départ, parce qu'au lieu de bloquer le pays, on a fait quelque chose de plus intelligent.
Un mot, en quelques mots vraiment, le Parti Socialiste est en pleine crise, ça c'est une évidence. Il n'a pas d'avenir et c'est une bonne chose, a dit Dominique Strauss-Kahn au Maroc. Est-ce que vous partagez cet avis ?
Écoutez, sur le Parti Socialiste... C'est pas de ma responsabilité. Donc, vous savez, les organisations politiques ont des histoires longues, compliquées.
Vous n'avez pas voté pour eux en juin, vous avez voté pour En Marche aux législatives. Vous l'avez dit.
Oui, mais attendez, je suis en train de vous répondre à une question importante. Je pourrais répondre après à l'autre question sur le vote, mais on n'est plus là. Regardons le présent et regardons
ça veut dire que déjà, vous considérez que
le PS est mort. Le PS est mort ou non ?
Est-ce que le PS est mort ?
Je sais, moi, j'aime pas les phrases comme ça, assassines, définitives. Il y a des partis qui ont disparu, d'autres qui ont ressurgi sous d'autres formes. Enfin, il est évident qu'il n'est pas en bonne santé.
Mais est-ce qu'il y a une gauche de gouvernement à la gauche d'En Marche qui peut exister,
c'est un espace politique.
Qui peut se trouver.
Il y a toujours des espaces politiques. On le voit bien aujourd'hui. Il y a des espaces politiques.
Et des questions de personnes pour les incarner également. Qui, au PS, peut aujourd'hui
des questions de personnes pour les
incarner le Parti Socialiste
demain. Avant de trouver les personnes pour les incarner, il faut trouver les idées que l'on veut incarner. Et c'est ça qui est majoritairement à
Donc
reconstruire.
Le PS n'a plus d'idées aujourd'hui et a plus de...
Le PS a une histoire. Une histoire forte, une histoire de génération en génération, une histoire de l'émancipation, une histoire de la gratuité de l'école, une histoire de l'émancipation au travail, une histoire des luttes des salariés, des luttes des travailleurs. Le Parti Socialiste a permis l'émancipation et la construction de l'État moderne.
Vous reprendrez alors, des responsabilités au PS à vous entendre, vous vous dites pourquoi pas ?
Non, je ne reprendrai pas de responsabilité au Parti Socialiste, mais je suis citoyenne de ce pays, citoyenne du monde aussi, comme vous. Donc je réfléchis, et les Français sont d'ailleurs passionnés de politique, et très subtils, très fins, ils regardent ce qui se passe, et rien n'est jamais définitivement perdu, ni définitivement gagné. Trop longtemps, le Parti Socialiste a pensé qu'il était sur un fonds de commerce immuable. moi, pendant ma campagne de présidentielle de 2007, j'avais déjà vu quand même que c'était le colosse au pied d'argile.
Bon, mais le Parti socialiste célèbre. A aussi un ancien président, François Hollande, qui prend régulièrement la parole contre son successeur. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Vous lui poserez la question. Je n'ai pas de commentaire à faire sur, vous voyez, les choix des uns et des autres.
Marie-Pierre Haddad de la rédaction d'RTL. Pour les réactions, c'est Nicolas Hulot et vos prises de parole sur Nicolas Hulot qui font réagir sur les réseaux sociaux.
Oui, justement, les internautes ne comprennent pas la politique de Nicolas Hulot sur l'écologie et la transition énergétique. Sur Facebook, Christian trouve que Nicolas Hulot pense régler les problèmes en taxant et ce n'est pas la bonne solution d'après lui. Marie se demande si Nicolas Hulot est utile au gouvernement pour le peuple ou pour lui, c'est la question qu'elle pose. Et Nicole, elle, estime que quand on est ministre, on n'attend pas 3 mois avant de prendre une décision. D'après vous, pourquoi est-ce que Nicolas Hulot n'arrive pas à convaincre les internautes et les Français ?
Bon, c'est pas à partir de 3 questions non plus d'internautes qu'on peut généraliser en disant que Nicolas Hulot ne peut pas les convaincre. Je crois qu'il faut pas personnaliser non plus et limiter toute la politique environnementale au ministre de l'environnement. Je crois c'est un homme engagé, un homme un militant de la cause environnementale. Voilà, il y a des sujets à régler, il y a des combats à conduire et il faut qu'il conduise ces combats.
Sa politique est pas trop de l'écologie punitive
comme en 6 mois qu'on peut juger d'une action. Comme il le dit lui-même, d'ailleurs, c'est sur la durée. Donc, il donne rendez-vous dans un an. Donc, il faudra voir à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de choses positives qui sont faites, mais aussi beaucoup de combats sur lesquels il ne faut pas lâcher.
Il n'a pas une approche trop d'écologie.
Mais arrêtez de personnaliser sur le... Je ne vais pas donner des bons points, des mauvais points. Je ne suis pas là pour donner des bons points. Moi, je donne des bons points quand ça avance. Et quand ça ne va pas tout à fait dans le bon sens, ma responsabilité d'ancienne ministre de l'Environnement et vraiment de femme politique expérimentée qui voit ce qui se passe à l'échelle de la planète, c'est de soulever des points de vigilance pour que les choses aillent mieux.
Alexis Brézé, une dernière question.
Qui n'a absolument rien à voir,
très bienveillante.
Sur lequel on sent le gouvernement un peu hésitant, la PMA... pour les femmes célibataires ou homosexuelles. Vous en pensez quoi ? Il faudra que le gouvernement la fasse ?
Il faut que le débat s'ouvre.
Et vous pensez quoi là-dessus ?
Il faut que le débat s'ouvre. Moi, je n'ai pas d'opinion comme ça.
Quand Emmanuel Macron dit qu'il faut que le débat s'ouvre, mais sans heurter les consciences, est-ce que c'est une bonne façon d'ouvrir le débat ?
Bien sûr.
Vous avez une conviction, vous, personnellement ?
Il faut que le débat s'ouvre. Moi, je n'ai pas de conviction particulière. Parce que vous savez, sur ces sujets, il y a beaucoup d'histoires individuelles qui sont toutes différentes. Mmh. Et quand on est confronté à un cas individuel, on se dit, pourquoi est-ce que le droit n'est pas là ? Sauf que quand on ouvre des droits individuels, on ouvre aussi des droits collectifs et une vision de la société sur laquelle il faut faire attention compte tenu de la diversité des sensibilités.
Merci beaucoup. Merci Ségolène Royal pour ce grand jury. Merci à tous les trois. Très bon dimanche à tous.